Vous écoutez France Culture, il est 6h46 pile. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier et bonjour à tous.
Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Sommaire aujourd'hui, l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain.
Et oui, c'est sa signature aujourd'hui au G20 de Buenos Aires. Nouvel accord commercial États-Unis-Mexique-Canada, l'AEUMC, qui vient remplacer donc l'ALENA, censé rééquilibrer le commerce et protéger l'emploi américain. Bonjour Jean-François Boitin.
Bonjour.
Et merci d'être au téléphone depuis Washington. Vous êtes expert associé au CEPI. Alors, un marché annuel de 500 millions de personnes et 1 500 milliards de dollars annuels, c'est ça l'ALENA 2.0. Mais ce qui a changé, c'est que l'AUMC, en fait, n'est pas un accord de libre-échange. Et en ce sens, est-ce que ce n'est pas déjà une victoire au moins formelle pour Donald Trump ?
Absolument, c'est clairement une victoire pour le président. Le libre-échange ne fait pas partie de son vocabulaire. Il ne parle que d'échanges réciproques, d'échanges loyaux, entre guillemets. Et le fait même que l'ALENA, qu'il avait qualifié à de multiples reprises de pire accord commercial jamais négocié par les États-Unis, le nom disparaît. Donc c'est une victoire. C'est une victoire très symbolique, car oui. En réalité, plus ça change et plus c'est la même chose.
Alors précisément, si on s'attache aux détails de l'accord, première chose, on peut avoir l'impression que Donald Trump a obtenu des concessions importantes du Canada concernant deux choses notamment, Canada et Mexique, l'ouverture du marché laitier canadien et la question des règles d'origine automobile. Ça, ce sont deux fortes concessions, non ?
Alors, je crois qu'il faut être très clair. Le président gagne de manière symbolique. En termes d'échanges commerciaux, ça va changer très très peu de choses. Les États-Unis resteront déficitaires dans leurs échanges avec le Mexique, c'est clair.
Oui, parce que c'était 64 milliards.
Effectivement, ouais. Est perdant quelque part avec la mise en place de cette espèce de monstre qui rappelle un peu le Comecon, hein, au temps de la domination de l'Union soviétique sur ses partenaires, entre guillemets, d'Europe de l'Est. Là, c'est un peu la même chose. Dans le domaine automobile, les États-Unis essayent de se tailler la part du lion, mais en réalité, ils le font avec le Canada, qui est le pays qui a proposé ce seuil de 16 $ de l'heure, avec ces clauses qui prévoient que 40, 45%, 50% d'un véhicule automobile devrait être produit à ce niveau de salaire. Ouais. Donc, le Mexique est perdant de ce côté-là. Je crois que le Canada, en réalité, si on regarde le détail de la négociation, est clairement le vainqueur, car il a gagné sur pratiquement tous les points qui étaient importants pour lui, des questions de règlement des différends en particulier, son exception culturelle qui est très importante politiquement pour le Canada. Et en échange, il a effectivement cédé, mais alors par rapport à ce qui avait été conclu déjà dans le cadre du TPP, l'accord transpacifique, il accepte d'ouvrir son marché laitier à un niveau de 3,59% au lieu de 3,25%. Donc c'est pas une concession majeure qu'a conclu Canada. En réalité, on doit leur tirer notre chapeau parce qu'ils ont fait un très bon travail de négociation.
Et ça a valu quelques reproches, cette ouverture du marché laitier de la part de producteurs à Justin Trudeau. Juste qu'on revienne sur cette question des règles d'origine sur les automobiles, puisque vous en avez parlé. Est-ce que c'est pas là, peut-être alors, la seule victoire justement de Donald Trump, cette manière qui nous paraît ici en Europe peut-être assez baroque, hein, de définir la composition d'une automobile avec 75% de composants américains, et puis cette question d'une automobile fabriqué à au minimum 16 $ de l'heure pour évincer les travailleurs mexicains finalement.
Oui, alors c'est une construction qui en fait est un véritable cauchemar pour les entreprises automobiles qui sourcent leurs composants de manière très très diversifiée et donc c'est un cauchemar bureaucratique. Est-ce que ça va changer de manière substantielle les échanges dans ce secteur ? C'est pas clair du tout. Il va falloir du temps pour que ça se mette en place. Et surtout, on le voit bien avec l'annonce qui a été faite il y a 2 jours par General Motors, on est dans une phase où le marché automobile américain est plutôt globalement en baisse, Et donc, l'impact de cet accord sur l'automobile sera forcément très dépendant, en fait, de l'évolution du marché américain.
Oui, parce qu'il faut rappeler que c'est la moitié des 17 millions de voitures vendues aux États-Unis en 2017 qui sont importées quand même. Vous avez aussi noté et souligné que le Canada a réussi à conserver ce fameux chapitre 19 sur le mécanisme de règlement des litiges commerciaux. Peut-être une épine, effectivement, pour Donald Trump. Par contre, une chose qui reste, et ça c'est intéressant, ça n'est pas compris dans l'accord, ce sont les droits de douane sur l'acier et l'aluminium qui sont peut-être en négociation, dit-on, avec Justin Trudeau. Mais est-ce que de ce point de vue-là, Donald Trump ne fait pas d'une pierre deux coups, en quelque sorte ?
Ce n'est pas sûr, d'abord parce que c'est effectivement une des inconnues, et il y a des bruits qui circulent selon lesquels les Mexicains en particulier ne seraient pas prêts à signer un accord si cette affaire n'est pas résolue. On parle aussi d'une formule qui leur donnerait des quotas, ce qui évidemment n'est pas du point de vue de la doctrine du libre-échange une très bonne solution, mais ces quotas seraient à 150% de leurs exportations actuelles. Donc en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes, ça a un impact nul.
Oui, c'est ça. Ouais.
Affaire à suivre, et les négociations sont en cours, donc on n'en sait pas plus.
Et alors par contre, si on s'attache à l'avenir de cet accord et surtout des négociations commerciales américaines, est-ce que selon vous, cet accord pourrait servir de levier contre la Chine ? Je dis ça notamment parce qu'il y a ce fameux article 32-10 que Wilbur Ross, le secrétaire d'État, qualifiait de sorte de pilule empoisonnée avec pour but de combler les lacunes dans les relations avec la Chine. En gros, un article qui interdit un traité de libre-échange avec des pays non membres du marché sans un accord de tous, en fait.
Oui, je crois qu'il ne faut pas... c'est clairement une disposition qui, parce qu'elle menace en fait la souveraineté des partenaires des États-Unis,
et elle vise directement le Canada, hein, en négociation avec la Chine.
Contestable. En revanche, je crois qu'il ne faut pas en exagérer l'importance, parce que ça ouvre en fait une espèce de période de consultation et de réflexion à Washington, mais c'est un peu absurde d'imaginer que parce que le Mexique ou le Canada auraient un accord avec la Chine qui augmenterait en fait leur compétitivité, les États-Unis se retireraient d'un accord qui est essentiel à la compétitivité de ces entreprises. Donc cette clause, effectivement, elle est a priori restrictive. Ouais, elle me fait un peu penser à cette fameuse scène d'un film de Mel Brooks où le shérif menace de se tirer une balle dans la tête si le calme ne revient pas. C'est pas très efficace en termes d'instruments de levier vis-à-vis des partenaires américains.
Effectivement, peu persuasif. Par contre, là où les États-Unis pourraient trouver un levier avec cet accord, c'est dans les négociations d'un accord commercial avec l'Inde. Alors, pas de libre-échange non plus, c'est un TFA, accord de facilitation des échanges. De quelle manière est-ce que la UMC pourrait peser, par exemple, je pense à l'ouverture du marché alimentaire indien ou à l'automobile ?
Ah, je pense que essentiellement ça va servir de modèle, parce que c'est comme ça que fonctionne l'administration américaine, enfin en particulier l'USTR, l'administration du commerce extérieur. Donc quand ils ont conclu un accord, ils ont tendance à vouloir l'imposer à leurs partenaires avec lesquels ils sont en négociation. Donc ça montre effectivement des pistes, mais ça montre aussi un certain nombre de pièges qu'il faut absolument éviter. Négociation d'un accord de libre-échange avec l'Inde, c'est un vaste programme.
Parce que je croyais avoir vu que l'Inde voulait des négociations commerciales immédiatement, disait-elle.
Oui, mais l'expérience montre, et on en a encore la preuve dans les différents exercices auxquels se livrent les négociateurs en Asie, que le libre-échange avec l'Inde n'est pas un objectif facile à atteindre. C'est quand même un des pays les plus protectionnistes de la planète.
Notamment à cause de la question de ces subventions agricoles. Alors, dernière chose, quand même, cet accord donc signé aujourd'hui par les différentes parties, il faudra encore le ratifier. Le Congrès américain l'a fait avant les midterms. Quelle chance ou quel risque est-ce qu'il y a qu'il soit retoqué par le Congrès mexicain ou canadien ? Aucun, ou quand même un petit, parce que le Parti libéral de Justin Trudeau a quand même perdu les élections provinciales au Québec, région agricole, juste après l'annonce de l'accord le 1er octobre.
Aucun. aucune chance du côté du Mexique pour qui l'ouverture du marché américain est un outil indispensable de prospérité et qui en fait peut profiter, qui a été le grand perdant de l'ouverture de la Chine avec l'accession de la Chine à l'OMC et qui peut espérer aujourd'hui récupérer un certain nombre d'industries. Et aucun du côté canadien, parce qu'encore une fois, il a scoré sur la plupart de ses objectifs, à l'exception de cette ouverture un peu plus forte du marché laitier, mais qui va être compensée par des subventions, etc. Donc, il n'y a pas de raison pour que le Parlement canadien refuse cet accord.
Eh bien, écoutez,
c'est plutôt ici, à Washington, qu'il va y avoir un peu de sport, parce qu'avec l'arrivée d'une majorité démocrate à la Chambre, on peut supposer qu'ils ne seront pas pressés de donner quelques victoires que ce soit à l'administration du président Trump.